Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Ta team en poukou. Okapi.
Nous voici dans la seconde partie du magazine Okapi Service. Comment améliorer l'accès aux soins médicaux des peuples autochtones pygmins? Nous en parlons dans cette seconde partie du magazine Okapi Service avec Dr Lubo Gustave. Il est coordonnateur national de l'Association des santé autochtones ASASBEL. Docteur Lubo, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Tati.
Chers auditeurs, auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous vous rappellerons pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, questions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Thomas de Kisangani. Cet auditeur nous révèle ceci. À mon humble avis, améliorer l'accès aux soins de santé pour les PAP est un impératif éthique et de santé publique. Cela exige une approche coordonnée qui s'attaque aux barrières géographiques, socio-économiques, culturelles et structurelles. En mettant l'accent sur la participation communautaire, l'adaptation des services et le respect de la culture, il est possible de construire un système de santé plus équitable et inclusif pour tous. Nous attendons également vos commentaires dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Ematouaki. Naomi Moutoki réalise ces rendez-vous. Deb Servitel à la prise de son et Meshak Mboutamontou s'occupe de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment améliorer l'accès aux soins médicaux des PAP en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec Dr Lubo Gustave. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur national de l'Association des santé autochtones. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Docteur Gustave Lubo, dites-nous quel est l'état des lieux que vous dressez concernant l'accès aux soins médicaux des PAP ici en RDC.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi que tous les autochtones du pays. Exactement comme vous venez de dire, la situation sanitaire des peuples autochtones est alarmante, à tel point qu'il faudrait une décision d'abord politique où nous avons vu le chef de l'État qui a promulgué la loi sur le peuple autochtone et cette loi maintenant ouvre la porte à tout le monde d'accéder maintenant aux soins de santé de qualité. Malheureusement, depuis la promulgation de cette loi, il n'y a pas vraiment des œuvres palpables pour le peuple autochtone accéder aux soins de santé de qualité. Alors, d'autres points, c'est par rapport au niveau technique. Au niveau technique, il faudrait que les acteurs du ministère de la Santé et ses partenaires techniques puissent prendre en charge la situation sanitaire des peuples autochtones. Parce que aujourd'hui, dans notre pays, nous avons plusieurs projets et programmes au niveau du ministère, tels que le projet lié à la gratuité de la maternité. C'est un très bon projet qui a été vraiment bien commencé ici au niveau de Kinshasa, mais qui devrait maintenant commencer vraiment en principe dans les milieux autochtones dans nos villages, où la femme autochtone accouche de manière difficile, derrière la maison, sur le feu de bananier, sans assistance médicale. Donc, ce projet, nous entendons ce projet pour que ça puisse être réalisé dans notre milieu autochtone. En deuxième lieu.
Donc, on doit construire les hôpitaux dans le milieu immédiat des PAP, là où vivent les communautés autochtones.
Bien sûr, nous voulons.
Parce que les hôpitaux sont généralement dans les grandes villes, à Mbandaka, à Inongo, mais quand vous allez au fin fond du Congo, dans les villages, il n'y a presque pas d'hôpitaux, c'est ça, docteur?
Oui, exactement. Parce que, quand vous venez d'évoquer les hôpitaux, nous avons le PEDEL. Le PEDEL qui est là, et nous pouvons que réclamer qu'il y ait des centres de santé dans les milieux autochtones pour que les peuples autochtones accèdent aux soins de qualité. Actuellement, où nous sommes, il n'y a que les organisations de la société civile, par exemple, et ses partenaires techniques qui appuient le peuple autochtone. Mais néanmoins, nous voulons à ce que le gouvernement puisse prendre ça en charge. À tel point que, par rapport à la loi, je m'attelle plus à la loi. Dans la loi, il y a plusieurs facettes là. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a la culture et tout consort. Mais par rapport à la santé, il faudrait que le peuple autochtone puisse bénéficier des soins de qualité. Comme vous le savez, dans tous les projets, la thématique peuple autochtone n'est pas vraiment acceptée comme telle. Quand nous voyons, on a été dans la couverture, on a été par exemple dans la santé pour tous. On vient d'accéder à la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, imprimée par son excellence le ministre de la Santé. Mais il faudrait que le peuple autochtone aussi soit partie prenante. Malheureusement,
non, la loi elle est impersonnelle, c'est pour tout le monde, docteur Gustave.
Non, la loi c'est plus que aux peuples autochtones. Nous avons notre loi promulguée par le chef de l'État, et cette loi qui protège, qui promouvoit le peuple autochtone dans ses droits, il faudrait
que l'on vous accorde réellement ses droits.
Oui, qu'on puisse nous accorder réellement ses droits. Parce que depuis lors, le peuple autochtone se contacte uniquement que de leur pharmacopée, de leur médecine traditionnelle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais dès que nous vivons en cohabitation avec tout le monde, nous vivons en cohabitation avec le monde entier, il faudrait que nous aussi, nous bénéficions le même soin de qualité que tout le monde.
Oui.
Il ne faudrait pas venir aux peuples autochtones uniquement dans les élections. Non, nous ne voulons pas ça. Parce que la meilleure chose dans l'homme, c'est la santé. Et quand la personne a une bonne santé, je pense bien qu'il pourrait mieux étudier, il pourrait mieux développer d'autres aspects. Et actuellement, par rapport à la médecine traditionnelle, nous voulons que la médecine traditionnelle soit aussi l'un des vecteurs clés des peuples autochtones, non seulement par leur pouvoir traditionnel, mais aussi soit légal. Au moment où nous parlons, on ne sait pas l'état de la médecine traditionnelle dans notre pays. Il faudrait que ce secteur aussi, où le peuple autochtone se contacte plus de la médecine traditionnelle, il faudrait que légalement, nous soyons protégés aussi par la médecine traditionnelle
et valoriser cette médecine
traditionnelle. Comme nous sommes aujourd'hui, il y a pas mal de tradis praticiens qui vivent au Congo, qui vivent parfois derrière les peuples autochtones, que ces produits, je viens de recevoir chez les pygmées. Mais en réalité, les pygmées lui-même ne fait pas la promotion. Qui empêche aujourd'hui que le peuple autochtone lui-même puisse prendre le devant à travers un document légal qui va lui permettre de bien organiser ce secteur. Parce que c'est ça que nous dépendons de ça. Nous dépendons que de ça pour le moment.
Oui.
Parce que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, santé pour tous, couverture santé universelle, parfois l'approche One Health, aujourd'hui le peuple autochtone ne vit pas de ça.
Alors que dans l'approche One Health, c'est le peuple autochtone qui vit dans la forêt, qui cohabite avec l'environnement, l'écologie, on devrait beaucoup plus orienter des projets là-bas.
Exactement, M. Tati. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de la forêt sans toutefois parler de l'homme qui vit dans la forêt. Il faudrait maintenant évoquer la personne qui vit dans la forêt. Or, dans le One Health, on associe les autres, on oublie maintenant la communauté dépendante de la forêt, qui sont le peuple autochtone pygmée. Il faudrait maintenant leur donner leurs désidératas, qui sont liés par exemple à la forêt, à l'éducation et à la santé. Mais malheureusement, ce que nous voyons dans les états généraux, à tous les niveaux, même stratégiques, opérationnels, les peuples autochtones ne sont pas impliqués. Il faudrait maintenant impliquer les peuples autochtones pour qu'eux aussi, dans leur tour, puissent s'épanouir et puis apporter un plus au niveau de la communauté.
Ah, parce que dans le domaine de la pharmacopée, par exemple, il y a des phytothérapeutes qui viennent de Kinshasa, de Mbandaka, qui vont aller puiser des connaissances là-bas et qui viennent soigner des patients, soit ici à Kinshasa ou dans les grandes villes. Et les peuples autochtones restent dans cet état-là, des cueillettes.
Voilà. Comme aujourd'hui à Kinshasa et partout ailleurs dans notre pays, vous allez voir, il y a pas mal de tradis qui sont par-ci, par-là. Et il y en a aussi les peuples autochtones, parce que c'est ça notre vraiment domaine que nous pratiquons au quotidien. Mais tant que la médecine moderne ne nous octroie pas quelque chose de consistant, aujourd'hui, la femme autochtone accouche toujours dans les mauvaises conditions. Les enfants autochtones souffrent de la malnutrition, n'ont pas accès à la vaccination, moins encore à l'eau potable. Il y a des épidémies qui apparaissent par-ci, par-là. Il y a impox, choléra, rougeole, par-ci, par-là. Voyez-vous comment est-ce que les peuples autochtones se prennent maintenant en charge? Est-ce qu'ils sont intégrés réellement dans la prise de décision? Non. Comment est-ce qu'ils s'échappent maintenant aux épidémies? Uniquement avec leur médecine traditionnelle, les savoirs endogènes. Vous voyez, il serait mieux à ce que ce secteur aussi soit organisé. Il ne faut pas laisser à tous ces charlatans par-ci par-là qui font des bruits dans la télé, par-ci par-là, au nom des pygmées parfois, sans toutefois que le pygmée eux-mêmes se prononce. Et ce n'est pas illégal parce qu'aujourd'hui nous sommes protégés non seulement par notre loi, mais au niveau international aussi,
exactement,
nous sommes reconnus par les textes légaux qui nous protègent aussi par rapport à notre médecine traditionnelle.
Et d'autres ici au Brésil, par exemple, en Inde, les PAP de ces régions du monde, ils sont très avancés par rapport à la couverture médicale, par rapport à l'éducation et autres.
Oui, nous sommes presque partout dans le monde et ailleurs il y a des avancées. Il faudrait que notre ministère, surtout le ministère de la Santé, bien sûr avec le ministère de l'Environnement aussi, puisse voir, se mettre ensemble, faire une mutualisation, voir comment faire un programme commun pour développer le secteur de la santé vis-à-vis des peuples autochtones.
Docteur Lobo, on va aller au standard. On part au standard, on donne la parole aux auditeurs qui veulent intervenir et puis on retourne ici pour continuer l'interview. Comment améliorer l'accès aux soins médicaux des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'évoquer dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ces thèmes vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9940. Maître Gaston Gandou, vous nous appelez à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour, je salue tout notre invité.
Bonjour à vous aussi.
Bon, nous savons que les femmes, dans leur majorité, vivent dans les forêts, c'est difficile d'accéder. On ne trouve pas de centres de santé appropriés, pas de personnel de santé qualifié. Je pouvais aussi, manque de ressources, manque d'éducation, tout. Alors, je voulais un peu demander au prof qui est là, quels sont les besoins spécifiques des pygmées, s'il peut un peu nous préciser, tenant compte de leur culture, leur mode de vie, mais aussi leur environnement, on peut nous préciser un peu quant à les besoins spécifiques de ces pygmées-là. Et puis, je voulais aussi demander par rapport à la tradition thérapeutique, nous voyons que c'est plus la médecine traditionnelle qui est d'actualité là-bas. Et comment intégrer cette médecine-là qui semble être efficace aux soins de santé qui peuvent être administrés à cette catégorie de la population. Mais en résumé, en somme, je voulais conclure pour dire que améliorer l'accès aux soins de santé des pygmées nécessite une approche aussi holistique qui prend en compte leur spécificité culturelle et socio-économique et qui implique activement les communautés dans la conception et la mise en œuvre des programmes de santé. Donc, c'est selon moi, je vais dire quelque chose là-dessus.
Merci beaucoup, Maître Gaston. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Et nous donnons cette fois-ci la parole à Monsieur Thomas qui est à Kisangani dans la Tchobo. Bonjour, Monsieur Thomas.
Bonjour, Monsieur Tati. Et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio au Capit. Merci beaucoup de la parole nous accorder, Monsieur Tati. On salue en tout cas l'initiative de la thématique d'aujourd'hui. À ce qui est des barrières, Monsieur Tati, il y a d'abord les problèmes liés à la géographie. Parce que les pygmées vivent souvent dans des zones là rurales, reculées, et souvent, il y a manque d'infrastructures, de santé adéquate. On les voit là, ils sont très éloignés là, là où il n'y a pas d'infrastructures, de santé adéquate. Il y a également si le plan économique, monsieur Tati, les coûts de santé, même s'ils sont disponibles, mais est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont l'argent pour se faire soigner également? On constate qu'il y a la pauvreté là quelque part également. Mais pour quelle stratégie? La stratégie qui devrait être mise en place pour améliorer ces postes de santé pour le peuple pygmée. D'abord, la loi est déjà là. Je salue quand même l'initiative de l'éviter parce qu'il y a la loi numéro 022/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Il y a une loi qui est passée. Et si vous allez aux articles 25, articles 26, 27, le soin de santé bel et bien garanti au peuple pygmée. Et si vous allez à l'article, par exemple, 200, à l'article 25, l'article ici dispose qu'il suit l'État garantit au peuple autochtone pygmée l'accès aux soins de santé de qualité, sans aucune forme de discrimination. Premier, vous voyez, sans aucune forme de discrimination, ça met en place les mécanismes d'attribution d'accès aux services de santé. C'est bel et bien garanti par là. Mais est-ce que ça se fait? Ça, on ne sait pas. Parce que là, les articles 25, 26 et 27, qui parle de droit à la santé quand assis. Mais ouais. Oui, est-ce que ça se fait? On ne sait pas pour ça. Mais pour qu'il y ait des stratégies d'amélioration, mais c'est-à-dire, il faut premièrement d'abord qu'on puisse renforcer l'état des infrastructures de santé. Si l'État doit, en tout cas, s'investir dans la construction des centres de santé où vivent ces pygmées-là, parce qu'on les voit plus dans des forêts, ou aux environs. Il faut qu'on puisse construire avec elle les infrastructures de santé dans les villes respectives là qui sont au village ou dans des forêts. Deuxième stratégie, il faut qu'il y ait également la formation et la sensibilisation des professionnels de santé. Il faut également former des personnels médicaux à la culture des pygmées. C'est très important pour réduire leurs préjugés également. Il faut former les professionnels adaptés à leur système de vie, adaptés à leur culture, monsieur Tati. Mais également, il faut qu'il y ait également l'intégration des soins traditionnels et modernes également. Quelque part, on doit fusionner également ces deux aspects-là. Mais je m'en vais directement aux questions que j'aimerais poser à l'évêque. La première question, quelles sont en tout cas les principales maladies qui touchent le peuple autochtone et quelles sont leurs causes? Parce que la première question que j'aimerais poser à l'éviter. Quelles sont en tout cas les principales maladies que l'éviter pourra nous donner, qui touche en tout cas cette couche-là de la population qui est le peuple autochtone. La deuxième question que j'aimerais poser à l'éviter,
Allô, monsieur Thomas. Allô.
Oui, oui, j'ai. Vous m'entendez? Oui, deuxième question, c'est quelles sont les expériences des pygmées avec le système de santé formel et informel? Je ne sais pas si l'invité. Est-ce qu'il y a des expériences quant à ça? Je ne sais pas par rapport au système de santé formel et informel. Ça, c'est la deuxième question que j'aimerais poser à l'invité. Et je vais citer par ceci. Comment les politiques gouvernementales actuelles prennent-elles en compte les besoins spécifiques des peuples pygmées en matière de santé? On a l'État ici, on a le gouvernement, je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement actuel prennent-elles en tout cas en compte les besoins spécifiques des peuples autochtones, des peuples pygmées, pardon, en RDC, en matière surtout de santé. Sinon, c'est fait ça, mais quelques préoccupations que j'avais à l'inviter, monsieur Tati.
Merci beaucoup, monsieur Thomas, et nous signalons que c'est depuis la ville de Kisangani, pardon, que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, docteur, on part à Lubumbashi pour donner la parole à Ismaël. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous, monsieur Ismaël.
Bonjour, bonjour à tout le monde, tous les amis auditeurs de la Radio Capi.
Dites-nous, monsieur Ismaël, vous avez activé le haut-parleur de votre téléphone, désactivez-les. Pour améliorer la qualité de l'écoute.
Je viens de les désactiver.
Voilà. Là, nous vous écoutons très bien. Allez-y.
Oui. Ben, je commence avec une petite question de savoir. Est-ce qu'on peut accorder l'accès aux soins à une personne qu'on ne doit pas une considération? C'est ça la première question. Parce que si vous regardez la façon dont les gens considèrent le pigment, je ne pense pas que les gens les considèrent comme tout un être humain comme eux.
Mais qu'est-ce que,
là, au plus des solutions, je pense que...
Oui, monsieur Ismaël...
Il faut d'abord... Qu'il y ait, oui?
S'il vous plaît, qu'est-ce qui vous pousse à avancer cet argument-là qui ne sont pas considérés?
Merci beaucoup, Tati, parce que je suis une personne qui a beaucoup tourné le Congo. Mm. Je sais comment, si vous allez, vous êtes du côté Tanganyika... Et Muntu, on appelle les Muntu et les Semi-Bantu. C'est ça les termes qu'on utilise si souvent en français. Mm. On dit, un Muntu peut épouser une femme pygmée. Mm. Mais un pygmée ne peut pas épouser une femme Muntu.
Muntu.
C'est ça, là, d'abord, la grande différence qui est là.
Oui, et lorsque
comprenez cette considération-là.
Oui, et lorsque vous arrivez dans la périphérie de Kalemi, vous voyez les cases des pygmées éloignées des cases des Bantous et les pygmées ne viennent que travailler la journée et retourner dans leur cité le soir.
Ben, Tati, je vous donne encore une autre réalité. Si ces pygmées vont travailler pour un Muntu, pour quel salaire on va les devoir?
Dérisoire.
Je vous dis, ces personnes sont traitées comme, je ne sais même pas comment utiliser les termes, parce que ça peut être dit. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme des bêtes. Vous voyez, quand vous avez une vache qui va faire les champs, des fois vous ne les donnez même pas à manger, à boire, après vous donnez la miette. Vous voyez les chiens, quand vous allez au champ, à la chasse avec les chiens, les chiens attrapent un animal, oui, JBS, on les donne que les caca ou le foin qui est au-dedans d'un animal que les chiens ont attrapé. C'est comme ça qu'on considère avec les pygmées.
Alors, allez-y aux questions, monsieur Ismaël.
Oui, maintenant, oui, parmi les pistes de solutions, j'avais voulu dire que le peuple pygmée doivent se battre parce qu'ils ne doivent pas attendre à ce que les autres travaillent pour eux parce qu'ils n'ont aucune considération pour eux. Sinon, je pense que ce sont les humains que nous devons devoir aussi la considération briguer aussi certains postes de responsabilité. En même temps, les écoles, comme ils sont éloignés du public, il a fallu à ce qu'il y ait aussi des écoles créées pour ces gens-là. Parce que s'ils fuient que pour la vivre, que pour la chasse, je ne pense pas qu'ils peuvent développer ou faire étudier leurs enfants, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, soit à Kalemi au centre-ville. Ils ont peur même du centre-ville. Il faut à ce qu'il y ait une éducation spécifique pour ces gens-là, envie d'instaurer une réintégration au milieu de la population qu'on appelle Bantou, comme vous les rappelez, les Semi-Bantou. Merci beaucoup, Inch'Allah.
Merci beaucoup à vous également. Hein. Excellente journée. Nous rappelons que vous avez pris la parole depuis la ville de Lubumbashi. Docteur Gustave, comment répondez-vous à nos invités? Nous allons commencer par Maître Gaston.
Merci beaucoup, Tati. C'est le sujet très intéressant.
Ouais.
Je sens l'implication des invités.
Des auditeurs.
Et oui. des auditeurs, vraiment, merci beaucoup. Et je vais ramasser le tout.
Oui, nous commençons par, il a dit, les premiers auditeurs. Quels sont les grands problèmes, les problèmes majeurs qui rencontrent les PAP dans leur milieu immédiat?
Exactement. Je voulais dire d'abord, les droits à la santé est inaliénable, garanti à tous de façon équitable et équilibrée.
Oui.
Donc, même si vous êtes un sous-homme, vous avez droit à la santé, y compris le peuple autochtone pygmé. Et à partant de notre constitution, y compris la loi des peuples autochtones, ainsi que d'autres textes légaux au niveau national et international, le peuple autochtone a droit à la santé. Alors, par rapport aux besoins,
il a droit à la santé. Dans quel état se trouvent des centres de santé dans des villages et des PAP? Est-ce que des hôpitaux viables existent?
C'est ça notre plaidoyer. Il faudrait maintenant que le gouvernement et ses partenaires techniques financiers puissent voir. Parce que le peuple autochtone vit dans les milieux reculés. Où, s'il faut avoir un centre de santé, il faut traverser des kilomètres. 40, 50 kilomètres.
Même 100.
Même 150,
100. Oui.
Il faudrait maintenant que le projet, nos projets ici du ministère de la Santé, ou le projet que le chef de l'État a promis dans la construction des hôpitaux.
Le PDL, par exemple, le PDL, qui a déjà commencé.
Il faudrait à ce qu'il y ait des centres de santé dans les milieux autochtones.
Jusqu'à là, on n'y a pas pensé.
Jusqu'à présent, à mon simple avis, je n'ai aucune information. C'est pour cela que nous lançons un cri d'alarme pour que les autorités puissent construire les hôpitaux dans le milieu autochtone pour que ces derniers accèdent aux soins de santé de qualité. Néanmoins, par rapport au problème, nous avons tous les problèmes comme tout autre humain. C'est par rapport à l'éducation, à la santé et tant d'autres problèmes sociaux de base. C'est pour cela, la chose la plus précieuse, comme j'ai dit tantôt, de l'homme, d'abord, c'est la santé. Si on améliore la santé d'un individu, aujourd'hui, il est capable d'innover, il est capable d'étudier, il est capable de voyager et puis de chercher d'autres moyens. C'est pour cela. Nous demandons aux autorités qu'il y ait un programme intégré, multisectoriel, pour la promotion de la santé des peuples autochtones. Et là, il ne faut pas oublier la médecine traditionnelle, qui est un élément clé où le peuple autochtone ne se contacte jusqu'à présent que de la médecine traditionnelle. C'est pour cela, dans notre organisation, qui est Association de santé autochtone, j'ai senti un auditeur en train de demander
les maladies qui sont dans la région.
Il y a toutes sortes de maladies. Des maladies parasitaires, bactériennes, virales. Comme aujourd'hui, tout ce qui nous traversons comme épidémie, les peuples autochtones sont parmi des cibles. J'allais dire même des cibles clés. Par exemple, comme un pox. Parmi les cibles, il faut être un abatteur, un consommateur de viande, un cuisinier, un éleveur.
Or, les PAP sont presque les chasseurs.
Oui, sont presque les tout. Et aujourd'hui, nous faisons partie de l'équipe de la riposte dans notre pays. Pourquoi? Parce que pour apporter un message au niveau de la communauté...
Il y a aussi un problème, docteur Gustave, d'accès à l'eau potable dans les villages des PAP.
Ça n'en parlons même sources, pas, t'as dit. Ça n'en parlons même pas. C'est un problème sérieux où le gouvernement devrait prendre ça en main. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'eau, où nous avons aujourd'hui des choléra par-ci, par-là, les peuples autochtones sont aussi affectés par le choléra aujourd'hui. Alors, quels sont les moyens à remédier pour que demain ou le lendemain, la communauté ne puisse pas tomber dans les mêmes pathologies? Il faut les mesures d'hygiène.
Exactement.
Et ces mesures d'hygiène, c'est de l'eau.
Tout à
fait. Et quand vous allez dans nos milieux, dans nos campements, voyez la façon dont la communauté est en train de boire de l'eau.
L'eau du lac ou du fleuve Congo.
Parfois de l'eau stagnante comme ça, qui ne coule même pas non, l'au-delà de rivières et tout consort. Et qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la communauté? Ce sont les différentes maladies dont choléra aujourd'hui, d'origine hydrique.
Exactement.
Donc, c'est compliqué. Et dans notre structure, nous sommes en train toujours de se battre pour que les autorités puissent nous écouter et on puisse améliorer quand même la situation sanitaire des peuples autochtones. Et également, par rapport à la médecine traditionnelle, nous avons constaté au niveau du ministère qu'il y a un programme de la médecine traditionnelle. Il y a le Conseil national des tradis praticiens. Mais il n'y a pas assez des autochtones là-dessus.
Vous n'êtes pas impliqué.
Dernièrement, là, on nous a appelé pour être impliqué, mais sur le plan légal, le conseil a un souci. Il faudrait en arrêter, il faudrait identifier les tradis praticiens, il fallait les organiser. Ce sont des gens qui marchent, à mon simple avis, qui travaillent, à mon simple avis, de manière désordonnée. Et ce n'est pas élégant dans un état de droit où vous touchez au corps de la population et vous n'avez pas une corporation qui vous régit. Ce n'est pas égal. Là, j'appelle aussi le ministère de la Santé de mettre de l'ordre là-dessus. Parce que sinon, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, selon l'OMS, 80% de la population recourt à la médecine traditionnelle. Et quand il y a beaucoup, il y a pas mal de la population qui recourt à la médecine traditionnelle, qu'il n'y a pas une corporation qui les encadre. Voyez-vous ce que ça peut engendrer au niveau du pays. C'est un problème maintenant. Il faudrait maintenant, à ce niveau-là, que le ministère de la Santé puisse mettre de l'ordre avec des moyens aussi. Ce n'est pas désigner seulement les gens sans les moyens. Il faudrait mettre les moyens, désigner des gens et puis encadrer tous ces charlatans qui déambulent dans notre pays, qui font n'importe quoi, qui citent parfois les autochtones, donc, parfois, si vous le demandez, est-ce que vous avez vu un autochtone? Non, depuis ma vie, je n'ai pas encore vu un autochtone, mais il utilise toujours les noms des autochtones pour vendre ses produits. Voyez le danger qui guette le pays.
Oui, docteur.
Et ça sera une bonne chose pour régler cette corporation.
On va retourner au standard, docteur Gustave. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, hein, et puis nous allons retourner ici au studio. Monsieur Achille, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous. Vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. On vous donne la parole.
Oui, merci Tatim. Bonjour à l'invité.
Bonjour, merci.
Allô?
Oui, bonjour.
Merci. Oui, alors je voudrais dire ceci. Je pense que votre invité, lui, a au moins la chance d'être à Kinshasa, d'être dans la grande ville. Il est en train de donner les détails par rapport à ce qu'il connaît. Est-ce que c'est réellement ça, les soucis de ceux qui sont au fin fond? Bon, ça c'est une question qu'on se pose tous, parce que lui au moins a la chance d'être là où il est. Alors, je voudrais revenir sur la médecine moderne, parce que souvent, assez souvent, la médecine moderne n'a jamais accepté facilement la médecine traditionnelle. Est-ce que, monsieur l'invité, comment expliquer ces paradoxes-là? Je voudrais encore aborder l'histoire que vous dites. Vous avez ils ont besoin des centres de santé, de l'eau. Mais l'histoire nous renseigne que les peuples pygmées sont des peuples nomades. Si on s'est dit, on va construire, par exemple, un centre de santé quelque part dans un village, je sais pas, citer les noms. On fait des forages. Mais après un temps, ces peuples-là vont faire ces liens-là et ça va rester comme ça, ça va se dégrader. Parce que c'est ça l'histoire. L'histoire nous dit qu'ils sont nomades. Donc, ils n'ont pas d'habitation fixe, n'est-ce pas? Alors, ça sera un peu compliqué pour que l'État fasse, c'est quoi?
Non, Monsieur Achille, s'il vous plaît. Oui, le nomadisme, on accepte pour des raisons de chasse ou lorsqu'ils vont à la pêche, mais ils ont des villages établis, reconnus.
Bon, ces villages-là, quand vous faites pas, que moi j'ai déjà parcouru, j'ai déjà été dans les Manono, Tanganyika, mais vous allez constater que quand vous passez, il y a toujours des villages. Non, ici, quand vous demandez, non, papa, quoi, quand on va embauter, Bachakwamaka, donc vous avez, il y avait des pygmées. Bon, après un moment, on ne sait pas les
retrouver facilement. Ils ont quitté, ils sont partis.
Ça, c'est un fait quand même. Où ils sont partis. Donc,
vous
construisez un centre de santé. Après un moment, après quelques temps, ils vont fuir. Et monsieur l'invité a dit, bon, j'étais dans les Manono. Pendant la période où les Bakatakatanga, il y avait de quoi de la guerre là-bas, les seuls administrateurs avaient demandé aux Pygmins, que voulez-vous? Les Pygmins avaient dit, non, nous revendiquons, nous voulons que nous marions avec le peuple bantou. C'était ça leur revendication. Mm. Bon, alors c'est pour ça que j'étais en train de dire, lui a la chance d'être là où il est. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie revendication de ces peuples-là, quoi? Oui, la réalité. Parce que lui est dans les centres-villes. Est-ce que ceux qui sont enfants, c'est ceux qui veulent? Voilà.
Merci beaucoup, Maître Achille. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi hein, que vous intervenez. Et excellente journée. L'invité va vous répondre. Cette fois-ci, on part à Mandaka. Docteur Guissav, on va donner la parole à Papi Mboyo. À qui nous disons bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Nous vous écoutons.
Monsieur Tati, de prime abord, je voulais faire certaines observations pour ce peuple-là. Mm. Je vous dis, certes, monsieur Tati, c'est un peuple difficile à gérer. Bon, je peux dire même compliqué. Vous allez le voir ici, en Mbandaka, ici. Mm. Lorsque nous occupons à l'île de Mbandaka, il y avait l'ancien DG qui avait pris tous les TA. Mm. Pour les inscrire
Ali Espen Mandaka.
Gratuitement pour qu'ils étudient.
Ali Espen Mandaka.
Ali
Zer Mandaka. Ah, oh, d'accord. D'accord.
Oui. Ali Zer Mandaka. Les gens ne veulent pas étudier, ils sont partis comme ça. Il y a eu même, les deux là passant, les professeurs Giscard qui étaient allés en passant, il a pris même l'une de leurs soeurs, le moment assistante, Ali Zer Mandaka, est venu le jour où il est venu pour lui présenter publiquement. Les pères sont venus, mais pas les voir. Vous êtes partis dans une fête comme ça, on présente l'un de vous a eu des promotions. Mm. Mais ils arrivent avec leurs histoires, vous ne comprenez même pas. Si on va quitter ici, c'est comme si on va démigrer. Mais je vous dis que c'est un peuple extrêmement compliqué.
Oui, mais vous dites, ils sont venus avec leurs histoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont fait des manifestations, puis ils commençaient peut-être à déranger la
oui, mais si, quoi. Mais si cela fait partie de leur coutume, c'est pas le désordre, non. S'ils viennent chanter, danser, parce que un de leurs a eu la promotion, où est le problème?
Monsieur Tati.
Oui.
Monsieur Tati.
Je vous écoute.
Ça fait partie de leur coutume. Aujourd'hui, dans le sujet du jour, vous demandez est-ce que, comment est-ce qu'on peut approprier les choses appropriées pour les
exactement.
Mais comment, alors qu'eux, ils veulent, voilà. Donc ils doivent s'accommoder avec la culture en place où ils se retrouvent. Je vais vous donner des exemples qui sont multiples pour ces gens-là. C'est un peuple, je vous dis, pas difficile, mais compliqué. Ils vont faire le travail, ils ne savent pas faire l'économie. Mm. Vous leur payez quelque chose, ils ne peuvent acheter juste des grillades, de la chicane, de tini, parce qu'ils savent que demain, ils vont avoir. Mm. Il y a un de là qui est décédé, sauf venir vers les autorités pour solliciter le sénateur et tout pour les funérailles. Mm. Vous leur proposez le bloc, ils ne veulent pas. Ils prennent les corps à l'épaule comme ça et ils amènent pour la
guérison. Ils vont à pied.
C'est comme ça que... À pied, voilà. À pied, vous achetez des boissons comme ça, indigènes et tout ça. Ils boivent pour qu'ils aient le courage et tout. Tout ça, ils pensent qu'ils sont peut-être au village. C'est comme ça, partant de cette thématique du jour que nous trouvons un peu vraiment intéressant et que vous avez le pigment en place. Moi, j'avais quelques soucis à lui demander des petites
préoccupations. Oui, je précise, nous précisons que Dr Gustave, il fait partie de cette communauté-là.
Oui.
C'est comme ça, c'est ma joie.
D'accord.
C'est ma joie de voir que lui-même, il est au studio avec vous. Hein? Alors, j'aimerais lui poser certaines questions, une petite question qui va éclairer l'opinion.
Okay.
La première serait celle de savoir quels sont les mécanismes mettre en place pour convaincre les PA accepter ces soins appropriés. Parce que j'attendais tantôt, ils disaient qu'ils veulent souvent des traitements traditionnels. Alors maintenant, nous parlons des soins appropriés. Ce n'est pas traditionnel.
Vous avez raison, parce qu'on risquait de mettre, on risquait de construire des hôpitaux qui ne sont pas visités parce qu'ils sont habitués à se soigner de manière traditionnelle.
Tout à fait, monsieur Tati. C'est comme ça que ma première question était celle de savoir quels sont les mécanismes mettre en place pour convaincre les PAP à accepter les soins appropriés, ça c'est le 1, que l'invité va devoir nous éclairer. De deux, M. Tati, il dit, quelle stratégie mettre pour le moral, pour inculquer à ces peuples-là l'installation des valeurs moraux? Quelle stratégie que l'invité nous dise? Quelle stratégie qu'il va mettre en place pour inculquer les valeurs moraux à ces peuples-là?
Non, ne dites pas que cette communauté est dépourvue de valeurs morales. Hein. Non, non, ils ont leur mode de vie aussi qu'il faut accepter. Même chez les Bantous aussi, ils ont...
Ici, Mais c'est dit,
oui.
Ce n'est pas des histoires que je raconte, ce sont des choses pratiques. Nous vivons avec eux ici à Mandaka. On est avec eux partout. Ils sont là pour nous aider dans des petits travaux et tout. Mais comment ils se comportent? On a même un député ici, du peuple autochtone, FPA, qui est devenu député provincial ici à Mandaka.
Okay.
Mais il fallait voir comment ils vivaient, ils ne vivaient pas de travailler ici tout. Demandez aux gens. Vous voyez que c'est vraiment un peuple qui est un peu difficile à gérer.
Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y rapidement pour chuter.
Je suis en train de chuter.
Allez-y.
Je suis en train de chuter, M. Tapi.
Nous vous écoutons, oui.
Alors la dernière préoccupation serait notre invité lui-même, en tant que PA, est-ce qu'il a des possibilités à mener ce genre de démarche au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il a pensé à ça avant de venir à la radio ou bien il en a en tête ce qui va passer? Voir le gouvernement, l'autorité pour mettre cette pédalerie en marche. Merci, monsieur Tati, de m'avoir invité dans ce niveau du débat.
Nous également vous remercions, monsieur Papi Mboyo. Donc, l'exercice qu'on est en train de faire, c'est aussi un plaidoyer. Hein. Les autorités nous suivent, ils vont écouter. Et s'il faut solliciter, s'il faut inviter docteur Gustave Lobo, ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Excellente journée au niveau de la ville de Mandaka. On retourne ici à Kinshasa où il y a un auditeur. Je vous donnerai la parole. Allons d'abord donner la parole à Maître Omar. À qui nous disons bonjour?
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, docteur Lobo.
Bonjour, merci beaucoup, maître.
D'abord, je le félicite. Un autochtone qui parle très bien intelligent, comme on l'a dit, en tout cas, c'est rare.
Merci beaucoup.
Il est médecin, hein?
Alors, pas, il est médecin, vraiment, on s'est félicité parce que, comme mon prédécesseur, moi également, j'ai côtoyé les autochtones. Je sais pas s'ils connaissent le toit.
Oui.
Oui, c'est le peuple toit.
C'est vers Bandundu là-bas.
Oui.
Oui, ce sont déjà des natures complexées.
Du côté de Maïndombe.
Vous regardez.
Oui.
Oui, oui. Il faut vraiment un travail de fond au niveau de la sensibilisation pour leur faire comprendre qu'ils sont humains comme tout autre.
Okay.
Les mêmes aptitudes, les mêmes promptitudes. Je suis fier du docteur, vraiment.
Merci.
Alors, par rapport à l'émission, les économistes de développement précisent qu'un État est développé si ses citoyens, autochtones ou pas, ont droit à l'eau potable, à l'énergie qualifiée, aux soins de santé de qualité, et à l'éducation de base.
Voilà.
Si ces choses ne se réunissent pas, on peut pas espérer avoir un État. Et l'article 12 de notre Constitution dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi. »
Voilà.
Nous constatons une discrimination à l'égard des peuples autochtones. Ce n'est pas bon. Même lorsque je faisais mes études à Bandundu, on le considérait pas. Voilà pourquoi en 2022, le Parlement congolais a voté une loi pour rappeler à tout le monde qu'ils sont des êtres humains à part entière et qu'ils méritent respect. Malheureusement, cette loi n'a jamais été respectée. Car la loi n'est pas ce que prévoit les textes, mais ce qu'en font les acteurs. Cette émission vaut également l'interpellation pour le gouvernement, qui a la mission de concrétiser les lois qui sont votées au Parlement. C'est bizarre, en plein XXIe siècle, qu'un pays se revote une loi et que personne n'assure le suivi. Où allons-nous? Je m'en vais à ma première question. Docteur, au-delà de ce que doit faire l'État, c'est-à-dire appliquer cette loi, mais pourquoi ne pas valoriser les valeurs locales? Excusez-moi la redondance. Pourquoi ne pas valoriser la médecine traditionnelle? Je parlais de Bantois ici, ils ont un piment qu'on appelle 500. On en fait plusieurs usages. D'autres font la boisson et ça guérit aussi. En dehors de ces piments-là, 500, j'ai vu des gens être cassés et avec de feuilles, sans plâtre, il est guéri. J'ai vu des femmes accoucher plein champ. Alors, on parle en Chine du plan intestinal à 85, où Mao n'a pas pris la médecine moderne. Il a valorisé. Pourquoi ne pas tenir compte de cela? Parce qu'on parle tout de médecine moderne, mais il y a des valeurs là-bas chez les Pygmées. Avant la médecine moderne, nos ancêtres vivaient, ils guérissaient tout. Pourquoi ne pas capitaliser ça? Deuxième question. Depuis 2022, la loi a été votée. Qu'est-ce qui est déjà fait? Parce que la loi n'a de sens que si elle est appliquée. C'est vrai, de manière générale, rien n'est fait. Mais qu'est-ce qui est déjà fait? Et pour finir, je voudrais ici interpeller les pouvoirs exécutifs, qui a le devoir d'exécuter les lois, et aussi les pouvoirs judiciaires, qui a le pouvoir de sanctionner une personne qui ne respecte pas. Parce que lorsque la loi est votée, il y a un budget qui est alloué, et un programme qui doit être fait. Personne n'est fait. Il y a un détournement apparemment. Que les pouvoirs judiciaires qui nous écoutent se réveillent. Pourquoi la loi de 2022 a été votée, mais les autochtones ont toujours des difficultés? Donc c'était à la fois mes questions et mon interpellation. Une fois de plus, félicitations docteur. Nous sommes très fiers de vous.
Merci beaucoup, maître. Excellente Merci. Journée. Je me tourne vers vous, docteur. Comment répondez-vous à nos auditeurs?
Merci beaucoup. Je peux commencer par la dernière intervention.
Maître Omar.
Maître Omar. Mm. Maître, merci beaucoup et je voulais apporter un peu d'éclaircissement. Mm. C'est par rapport à la loi, nous avons une feuille de route que le gouvernement a établie, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de retombée, donc on attend. C'est en cours.
Pouvez-vous nous faire une idée sur cette feuille de route, les grandes lignes?
Cette feuille de route, c'est un ensemble de...
Des recommandations,
des activités quoi,
qui seront organisées
au niveau pays, où il y aura tout le ministère concerné, santé, éducation,
affaires coutumières, environnement
et tout, chacun avec ses partenaires techniques et financiers va apporter un plus.
Okay. Pour
des projets d'intérêt communautaire.
Construction d'ouvrages sociaux de base, par exemple, ponts, routes, écoles.
Tout cela, on entend des retombées.
Oui, mais là, on est en 2025. C'est depuis
2022, on entend des retombées. Et c'est à nous maintenant d'interpeller les autorités.
C'est l'exercice qu'on est en train de faire.
De booster des choses pour qu'on ait des activités sur terrain. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est par rapport à la médecine traditionnelle. Comme vous le savez, jusqu'à présent, nous nous contactons toujours avec notre médecine traditionnelle. Et cette médecine... Comme vous l'avez dit tantôt avec l'époque de Mao et tout, aujourd'hui même au niveau du ministère, pas même dans notre ministère de la Santé, même dans d'autres ministères, éducation et qu'on soit avec l'appui de l'ISAID. Aujourd'hui, tout le monde en pleure parce que l'ISAID est parti, il n'y a pas assez de financement, partout. Donc, il faudrait maintenant remédier. Sur le plan sanitaire, si on n'a pas de médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner notre population? Bien sûr, nous devons recourir à notre médecine traditionnelle, à la pharmacopée, aux avoirs endogènes et tout, mais que ça soit de façon organisée.
Tout à fait.
Il faudrait maintenant encore un peu de moyens.
C'est le pouvoir public qui doit l'organiser.
Oui, il faudrait maintenant encore un peu de moyens. Un peu de moyens pour valoriser tous ces produits-là. Parce qu'aujourd'hui, ne fût-ce qu'avec la médecine traditionnelle. Ailleurs, ce n'est pas facile même de prendre une plante et de venir avec ça au Congo. On a été ailleurs dans d'autres cieux. Ce n'est pas facile. Mais chez nous ici, vous voyez, les gens exploitent même des arbres, des feuilles et tout. Ça va, il n'y a pas de taxes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas élégant. Or, le gouvernement pourrait capitaliser ça et en profiter pour avoir un peu de recettes. Mais sinon, c'est un problème. Donc, nous sommes en train toujours d'interpeller les autorités pour organiser la médecine traditionnelle dans notre pays. Vraiment, quant à moi, étant qu'autochtone, je vois que c'est une urgence auquel on doit nous mettre à contact avec le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé qui est avec nous devrait organiser les choses, le plus tôt serait mieux. Par rapport à d'autres invités, mécanismes d'intégration...
L'auditeur, par exemple, de Rubumashi, il a dit, vous êtes un peu...
Comme notre ami de Mbanaka, les mécanismes là et tout. Je crois que, oui, dans toutes les couches de la population, vous pouvez trouver, il y a des comportements rebelles parfois qui sont là-bas
pas,
et tout.
Ça manque pas.
Alors... Nous sommes là pour
mais on
plaider.
Ne doit pas généraliser.
Nous sommes oh non.
On ne doit pas généraliser.
Nous sommes là pour plaider au niveau du gouvernement pour que les conditions socio-économiques de la communauté autochtone puissent améliorer.
Être améliorées. Oui.
Alors, s'il faut organiser cette communauté, actuellement, d'abord, il faut passer par les structures
qui existent
déjà. En termes des ONG, comme nous sommes là, je suis le coordonnateur national.
Dans le domaine uniquement de la santé.
Uniquement dans la santé.
Et tous les partenaires. Oui, docteur, il y a un auditeur, il a dit, est-ce que les problèmes que vous évoquez reflètent réellement la réalité des PAP qui vivent au fin fond du Congo?
Là où il est, au Tanganyika, là, moi je viens de là. Donc, c'est difficile que je puisse passer des mois ici à Kinshasa.
Vous êtes tout le temps.
Tout le temps, je suis à l'intérieur du pays. Oui. Donc, je sais le quotidien de la communauté. Je sais comment est-ce qu'ils vivent. Et moi-même, je fais partie de la
de cette communauté. Donc, vous connaissez les réalités.
Donc je connais les réalités. Mm. Donc, à l'auditeur, calmez-vous. Oui. Calmez-vous, soyez calme. Ce que moi, je vous dis, c'est la voix de sans voix. Et je pense que
c'est le reflet de la réalité
et tout.
Qu'on retourne au standard, s'il vous plaît, avant de venir ici pour clôturer l'émission. Ouais. Monsieur Chrysostome, vous nous appelez depuis Yarou. On vous dit bonjour et à vous la parole.
Bonjour, monsieur Tati. Vraiment, merci pour la thématique, c'est pertinente. Nous voulons juste demander à l'invité si on ne peut pas essayer d'instituer des mesures positives pour aider pour faire pygmée. C'est ce qu'on peut appeler comme la discrimination positive.
Oui.
C'est-à-dire, on peut voter des lois comme. Comme pour favoriser les pygmées.
La cooptation.
Surtout ça. Ok, on peut faire en sorte que si ils veulent s'inscrire à l'école ou à l'université, qu'ils ne payent pas. Parce que ça aussi, je crois, ça peut les favoriser. On peut toutefois voter des lois pareilles. Moi, je crois.
Dans la loi, il y a.
Oui, mais en même temps, il y a un problème, cher auditeur, parce que l'auditeur de Mandaka, il a dit, à Isder Mandaka, à une certaine promotion, là, on a demandé au PAP diplômé d'aller étudier gratuitement, mais nombreux n'étaient pas partis, hein. Merci beaucoup. Allez-y, vous avez des questions précises à poser à l'invité?
Bon, c'était juste ça parce que je me souviens quand j'étais à Kisangani pour étudier, on était avec un pygmée, mais il était stigmatisé, hein. Il y avait
ça aussi, ça décourage.
Cette pratique-là aussi, il faut aussi condamner ça.
Exactement.
Je crois qu'il y a peut-être ça aussi qui les décourage.
Allez-y, docteur. Oui, merci beaucoup, l'auditeur. Je voulais vous dire que l'histoire change. Le monde évolue. Et puis, On se développe. Bien évidemment, il peut y avoir l'un de nos frères qui soit un peu compliqué en termes des études et tout, mais la loi nous garantit au moins les études,
l'accès à
l'éducation, souvent l'éducation primaire là. Nous avons droit d'étudier sans problème. Et je crois, vous êtes en Arou, à l'Équateur, on a des témoignages, je vois même les diplômés, on vient de présenter sans toutefois payer. Là, on a vraiment des éléments. Et par rapport aux études post-secondaires et tout universitaires, je voulais vous dire que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être à l'université. Même si on met quelque chose gratuit et tout.
Il y a aussi des Bantous qui n'ont jamais fait l'université.
Même dans la communauté Bantou et tout, ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être à l'université. D'ailleurs, il faut avoir la volonté.
Oui.
Donc, le problème, c'est ça. Mais néanmoins, nous devons quand même revoir l'histoire, parce que le pygmée d'hier, ce n'est pas le pygmée d'aujourd'hui.
En conclusion, aujourd'hui, on est coincé par les temps,
docteur. Il y a des pygmées nomades, sédentaires et tout.
Oui.
Et donc, en conclusion, j'appelle les autorités à améliorer les conditions sanitaires des peuples autochtones pygmées. Nous sommes un peuple, nous avons droit à la santé et
vous avez droit à la santé, à l'eau potable, à l'éducation.
Oui, nous avons droit à tous nos droits et ça sera une bonne chose si les autorités nous appuient. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Loubo Gustave. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur national de l'Association de santé autochtone Assa Asbel. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous et on espère que c'est pas la dernière occasion, la dernière fois que vous veniez ici évoquer, faire les plaidoyers en faveur des peuples pygmées autochtones. Et c'est par ici que s'achève les magazines Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de les présenter et coordonner sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Naomi Moutokier a réalisé cette émission. Debs Vita était à la prise de son et Meshak Moutamoutou s'est occupé de l'édition multimédia. Les rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Excellent week-end.